Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous parlons de deux immenses figures de l'art, deux étranges monstres, tous les deux poussant le langage qu'ils ont choisi au bout de ses possibilités, Pablo Picasso et Jean-Luc Godard. Et ceci à l'occasion d'une exposition Godard-Picasso-Collage qui se tient à partir du 2 juillet et jusqu'au 23 septembre à l'abbaye de Montmajour à Arles, dans le cadre des Rencontres de la photographie. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Alain Bergala et Dominique Paigny. Alain Bergala, vous êtes réalisateur, cinéaste, auteur d'une vingtaine de films, critique, théoricien du cinéma. Vous avez écrit des ouvrages sur Rossellini, Chiarosmani, Bergman, Buñuel et évidemment Godard, dont vous avez été l'éditeur et vous avez été aussi l'un de ses... un de ses familiers, pourrait-on dire, pendant près d'une trentaine d'années. Je ne sais pas si le mot est juste d'ailleurs.
Avec Godard, les bonnes relations sont des relations de travail. Si les relations de travail sont bonnes, après, le reste est bon.
Et vous êtes en compagnie aujourd'hui pour parler de cette relation entre Picasso-Godard, entre Godard et nous, entre Godard et l'art, avec Dominique Paigny, qui est aussi un ami de 30 ans, cette fois-ci on peut le dire, je crois. Dominique Paigny, vous êtes un commissaire d'exposition bien connu, critique de cinéma, vous avez été le directeur de la Cinémathèque française pendant une dizaine d'années, avant de devenir directeur du développement au Centre Pompidou, et vous avez initié énormément d'expositions assez extraordinaires, Roland Barthes en 2002, Samuel Beckett, et évidemment, vous avez été aussi le commissaire de Hitchcock et les Arts, c'était en 2001, ça ?
2001,
2001, absolument. C'est une exposition qui fait date. Vous êtes en train de préparer cette exposition Godard-Picasso-Collage. Quelle drôle d'idée ! Je vous propose que l'on demande à Alain Bergala ce qu'il pense d'une idée pareille. C'est totalement inattendu. Picasso-Godard ?
Je ne trouve pas. C'est une idée que nous avions... parallèlement, sans se l'être jamais dit. C'est-à-dire, moi, quand je parle sur Godard, quand j'écris sur Godard, je fais très souvent référence à Picasso. Donc, pour moi, c'est pas saugrenu. Voilà,
c'est une mesure du génie ou c'est une analyse technique?
C'est, en tout cas, ça n'est pas les œuvres en soi qu'il faut comparer, de mon point de vue. C'est deux créateurs qui ont énormément de ressemblances sur leur conception même de la création.
C'est-à-dire une création qui est extraordinairement tournée vers l'histoire de sa propre création, parce que Picasso parle de Velázquez, de Poussin, etc. Godard parle d'Eisenstein, etc. Est-ce que c'est ça, cette relation à ce qui constitue le matériau de leur langage?
Oui, et puis aussi le fait que l'un comme l'autre, finalement, ont voulu tout faire dans leur art respectif. C'est-à-dire, c'est pas des cinéastes qui ont choisi un style, ou un peintre qui choisirait un style. Picasso dit, avoir un style, c'est vraiment méprisable. Il faut avoir tous les styles. Il faut tout traverser de son art. Et Godard n'a cessé de dire à peu près la même chose. Godard n'a pas de style. Godard a fait tout le cinéma, lui, tout seul. Et là-dessus, tous les deux sont quand même... dans leur art respectif, les deux plus grands artistes, disons, depuis 100 ans à peu près. Je parle dans leur art respectif.
Absolument. Et donc, voyez-vous, Dominique Paigny, Alain Bergala a l'air de trouver que l'exposition que vous préparez a un sujet qui est un bon sujet auquel il avait pensé aussi. Cette idée qu'ils ont fait une sorte de traversée de tout le matériel de leur art, c'est ça qui est à l'origine de votre projet?
En tout cas, c'est évidemment En évitant de les comparer, je presque envie de dire iconographiquement, évidemment, là, ils n'ont rien à voir les deux. Hein. C'est bien au prix de cette distance considérable qui les oppose presque, mais aussi qui les rend étrangers l'un à l'autre, qu'il est intéressant de les comparer. Hein. C'est la fameuse phrase de Reverdy qui disait que plus c'était lointain, plus on avait des chances qu'il y ait des éclairs de la coïncidence, comme disait aussi un autre breton. C'est au nom du fait que chacun dans leur discipline, ils occupent la même place symbolique. Ils occupent la même place historique. D'abord, comme le disait Alain, en effet, ils ont voulu tout faire, mais au sens de tout essayer.
Et tout défaire aussi.
Et tout défaire. Ils ont voulu tous les deux démonter ce qu'ils aimaient par-dessus tout. L'un aimait par-dessus tout la perspective. Il a cessé d'en découdre avec elle, mais de l'aimer aussi, de la déployer, de la décliner sous toutes ses formes. On a dit de lui, Picasso, qu'il était le destructeur de la peinture, certains l'ont dit, c'est sans doute pas lui qui a détruit, d'autres l'ont, ils s'y sont employés beaucoup plus, hein, comme Mondrian à Kokoschka, à Malevitch,
et bien Kokoschka est un artiste qu'aimait Godard.
Oui, oui, absolument, mais d'ailleurs, il les aime tous. souvent Godard, je l'ai entendu dire, et une des dernières fois c'était avec le cinéaste égyptien Chahine, comme Picasso, il se posait beaucoup cette question, jusqu'où puis-je aller dans la peinture? Et Godard disait, finalement, comme Picasso, je me dis, me peindre moi-même, me filmer moi-même. Vraiment, souvent, les deux eurent des raisons d'être comparés au titre d'une énergie, d'une expérience de leur propre discipline, mais surtout, et là, c'est pour conclure cette bonne question, Jean, tous les deux ont voulu, par certains aspects, être les derniers de leur art.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alain Bergala? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent aller tellement au bout de leurs expressions qu'ils ont conscience d'être à la fin de l'existence d'un genre?
Pour Godard, c'est évident. Un jour, en parlant avec lui, je lui dis « Mais est-ce que c'est important pour vous de transmettre ce que vous avez fait ?» Et il me dit « Moi, je fais les films pour les morts. Je fais pas les films pour les générations qui viennent. » C'est-à-dire, pour lui, il avait conscience que finalement, il faisait ça pour le cinéma, pour la conscience du cinéma, et pas du tout directement, comme font certains cinéastes, pour les générations qui suivent. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu de vrais disciples. Et s'il en avait eu, enfin, si des gens se sont présentés pour ses disciples, il les a évidemment fuis rapidement.
Alors, Dominique.
Ah, puis, pardonnez-moi, Jean.
Oui, Dominique Payet. Oui.
Et puis, il a vraiment, comme Picasso d'ailleurs, qui était toujours d'une certaine manière, je mets des guillemets au mot, inquiet de ce qui pouvait éventuellement menacer sa postérité, ou du moins sa postérité en tant que grand inventeur de formes. On connaît les anecdotes de Picasso à l'égard de Giacometti, qu'il était allé jusqu'à intervenir, en tout cas auprès de sa propre galerie, Louise Leiris, pour qu'elle ne prenne pas Giacometti dans la galerie.
Alors qu'ils avaient une bonne relation.
Bonne relation pendant l'occupation, mais même avant. Mais et de la même manière que Godard d'abord a enterré tout le monde, comme Picasso d'ailleurs. Hein. Picasso enterre tout le monde. Godard enterre tout le monde. Toute la nouvelle vague, ils y passent avant lui. Picasso, les plus grands, hein. Les maîtres du XXe siècle, Léger, Duchamp, Matisse, bon voilà. Et ils sont des guetteurs de tout ce qui peut, non pas être aussi grand qu'eux, c'est pas ça la question, mais des grands inventeurs de formes après eux. Alors, quand il s'agit pour Godard que Garel vienne après lui, Philippe est tellement religieusement presque, il lui dit « je suis ton fils », qu'il lui dit Garel. Hein. Mais lorsque un Jean-Daniel Paulet ou une Chantal Akerman, des gens qui sont pas forcément les plus grands cinéastes du monde, mais inventent des formes inédites, hein, eh bien, il est attentif, il est agressif, il y veille. Donc, ils veulent être les derniers, tous les deux, à beaucoup de titres. D'ailleurs, pour terminer, pardonnez-moi, quand Henri Langlois lui demande de faire un hommage aux Frères Lumière, il ne les nomme pas, enfin, il ne les désigne pas comme les premiers cinéastes, mais il les nomme comme les derniers des grands peintres impressionnistes.
Alain Bergala, puisque l'on va parler de cette, pas de la relation Godard-Picasso finalement, mais de certaines similitudes dans l'attitude, j'ai l'impression, hein.
Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez l'impression que chez Godard, la peinture est extrêmement présente, la peinture des autres, veux-je dire?
Évidemment. Enfin, le rapport à la peinture de Godard est très compliqué. Parce que pendant des décennies, il a proclamé que pour lui, la peinture s'arrêtait à Nicolas de Staël. C'est-à-dire le passage à quelque chose qui serait plus de l'abstraction. Et c'est Dominique qui finalement l'a conduit par la main voir des œuvres plus contemporaines. Et il a fini par en mettre dans ses films. C'est-à-dire là, vous avez celui qui a transformé le rapport de Godard, disons, à l'art contemporain. Parce que Godard, il voulait rien savoir.
C'est Dominique Pagny qui est là dans le studio à côté de moi.
Donc il a eu un rôle décisif sur cette histoire. Et Godard a même filmé des œuvres que Dominique avait exposées au Frénois sur l'écran, et il les a introduits après dans The Old Place, enfin dans le film sur le MoMA.
Alors, il y a parmi les similitudes entre ces deux personnages, il y en a une qui est assez frappante, je trouve, c'est que Picasso a été très heureux d'être nommé directeur du musée du Prado en 36, au moment du Front Populaire, même si c'était plutôt symbolique qu'autre chose, il n'a pas eu le temps de l'exercer. De même, il y a eu chez Godard, j'ai eu l'impression, un grand désir d'être professeur, d'enseigner, d'être professeur, parce que vous parliez du Frénois, c'est ça qui me fait venir la chose à l'esprit.
C'est plus que ça.
Il a voulu être professeur de France.
Il a voulu toujours être salarié. Il a toujours rêvé d'être salarié mensuellement avec un producteur, idéalement quelque chose de très avec un jeu.
Bien et sûr. Le rapport de Godard à l'argent est peut-être un peu compliqué.
Oui, pas tant que ça. Il ne veut pas devoir. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui rendre visite, enfin souvent ça m'est arrivé, Alain aussi, il redoute le fait qu'on ait pu être de sa poche pour venir le voir. De devoir, voilà. Et j'ai probablement fait les frais de cela lorsque je l'ai invité à faire cette exposition au Centre Pompidou. C'était aussi une manière de ne pas me devoir chercher d'inventer une faute, hein, s'il laissait supposer qu'il pouvait y avoir faute, me virer. Mais enfin, virer par Godard, c'est pas mal. Comme Cocteau.
Après 30 ans de relation.
Comme Cocteau, je ne me compare pas à Cocteau, mais comme Cocteau se réjouissait par certains côtés d'être sadisé par Picasso. Mais bref. Mais cela dit, non, il a vraiment voulu être professeur au Collège de France. Il a vraiment. C'est la raison pour laquelle l'exposition du Centre Pompidou en 2006 devait s'appeler Collage de France, encore un merveilleux jeu de mots comme il en a le secret. Hein. Et donc, mais le mot collage aussi lui importait, bien sûr. Il a souvent voulu enseigner, professer et occuper une place un peu officielle, institutionnelle officielle. Ils ont ça un peu tous les deux par certains aspects.
Alors, pour revenir sur notre sujet, Godard-Picasso, est-ce que Picasso... qui, lui, n'a pas évoqué Godard, à ma connaissance, mais est-ce que Godard a évoqué Picasso dans ses films, Dominique Pagny?
Oui, bien sûr, Picasso a été incontestablement un déconstructeur avant lui, Jean-Luc, il le fut tant, lui aussi d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, pour Picasso...
Je vous ai entendu dire il y a quelques jours, parce que vous dites Godard qui le fut tant, je vous ai entendu dire il y a quelques jours que Godard qui l'est.
Oui,
puisque il n'a rien perdu.
Oui, mais il l'a fait pendant une période de sa vie, beaucoup plus qu'à une autre. Je m'amuse à dire que j'inverse souvent ce qu'on a dit en évoquant Godard comme un peu le Picasso du cinéma, en mettant le grand héros Picasso comme l'exemple par excellence du déconstructeur des formes classiques. Hein. Moi, je dis plutôt aujourd'hui que Picasso c'est le Godard de la peinture. Hein. Et je dis ça très sérieusement, bien que le plus âgé. L'antérieur ne l'a pas connu, mais néanmoins, lui, en revanche, Jean-Luc, il a bien connu Picasso, il l'a beaucoup cité, d'emblée, tout de suite, dès ses premiers courts-métrages, « Tous les garçons s'appellent Patrick », est un joli film très, très printanier, Jean-Claude Brialy draguant les filles à l'espace, devant le jardin du Luxembourg, fait tourner un tourniquet de carte postale, et bien sûr, le tourniquet s'arrête très exactement sur une carte postale, un dessin, un portrait du fils de Picasso, voilà, d'une carte postale, et puis tout ça, après, dans Un bout de souffle, bien sûr.
Paul en Arlequin.
Voilà, Paul en Arlequin, c'est voilà. On a la charmante Jean Seberg qui pose, qui donne son profil, qui rivalise, qui avec des profils picassiens dans À bout de souffle. Et puis c'est aussi dans Une femme mariée, un grand Arlequin également, dans une séquence majeure du film. C'est enfin, j'en passe, hein, c'est enfin Pierrot le Fou, qui est le film final, qui fait une sorte de synthèse de tout ce qu'il lui doit à Picasso.
Qu'est-ce qui apparaît dans À bout de souffle?
Plusieurs. C'est une, entre autres, il y a.
Vous parliez, oui, de Pierrot le Fou, je vous ai, ouais, détourné. Puis,
eh bien, écoutez, il y a en particulier des portraits de Jacqueline, surtout, qu'il met dans une sorte de pendant, comme autour d'une porte, sauf que là, c'est pas la porte entre les deux portraits de Jacqueline qu'il montre, c'est Jean-Paul Belmondo et c'est Anna Karina, qui en gros plan d'ailleurs, il va alerte avec ses ciseaux. Mais vraiment...
Il faudra que nous reparlions des ciseaux, parce qu'avec Alain Bergala, parce que je pense que les ciseaux, chez Godard, dans ce film, oui, en particulier, ont un sens constructeur particulier. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? Vous pensez que...
En tout cas, dans la séquence dont Dominique parle, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'est pas du tout dans une posture comme ça d'admiration. Enfin, il est sûr d'admiration, mais il déconstruit Picasso, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il prend le tableau de Picasso et il le met à l'envers, il le casse sur des sons de... Quand on est en train de torturer Belmondo dans la baignoire, c'est-à-dire qu'il se permet même de déconstruire Picasso.
Mais en tout cas, Picasso n'est pas là seulement comme un parti pris d'anoblissement de son cinéma. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est en plus cet emprunt, cette référence est là aussi pour dire quelque chose d'un chaos, d'un désordre. En l'occurrence, là, c'est lors d'une fuite précipitée, agitée, criminelle, meurtrière, de la séquence où vraiment, là, tout à coup, un portrait d'amour pour Jacqueline est utilisé de manière à faire en sorte de dégager, de colorer au sens propre de ce mot. Et Dieu sait si pour Pierrot, c'est important, cette question de la coloration, pour colorer dramaturgiquement, pour donner plus encore de violence et de précipitation à un montage. C'est-à-dire que littéralement, la plasticité picassienne vient accélérer presque déjà ce qui est une vitesse hors du commun dans le cinéma de Godard. Donc vraiment, il y a là quelque chose qui est d'un ordre de... C'est au-delà de la référence. C'est une source qui s'accomplira définitivement.
Alors là, Dominique Paigny, vous évoquez quelque chose. J'aimerais bien avoir votre témoignage, Alain Bergala, là-dessus. C'est la façon dont l'artiste avance dans son œuvre. Là, vous évoquiez Picasso avec la transformation des formes qui se fait peu à peu, quasiment comme on ferait une improvisation en jazz. Est-ce que c'est la même chose quand Godard prépare un film ou fait un film? Est-ce qu'il avance dans le hasard de la construction de son film?
C'est très proche. D'ailleurs, ils emploient les mêmes mots à peu près. C'est-à-dire, Picasso dit « Je commence, je fais un trait, et après, l'histoire vient. » Et après, ça vient. Ou ça... Et il dit souvent ce qui vient, après, ça devient autre chose. C'est-à-dire que l'idée de... Et c'est la même idée, alors là, vraiment, que celle de Picasso quand on le voit peindre. C'est-à-dire... Il commence le tableau et le tableau se fait au fur et à mesure qu'il avance dans la création du tableau. Godard a beaucoup pratiqué ça, enfin, dans les années 60. En gros, c'était sa méthode. C'était de dire, j'ai un tout petit scénario, je commence le film et le film se fera en se faisant.
Après, oui, j'avais une citation de Godard, dit, j'ai fait plutôt des films comme deux ou trois musiciens de jazz. On se donne un thème, on joue et puis ça s'organise. C'est quelque chose qui est assez commun aux deux, d'ailleurs, me semble-t-il. Écoutons ce que dit Picasso, une seconde.
Dire que je n'ai jamais pu faire un tableau. Je commence dans une idée et puis ça devient tout autre chose. Qu'est-ce au fond qu'un peintre? C'est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux qu'il aime chez les autres. C'est comme ça que je commence, et puis ça devient autre chose. Pablo Picasso, 13 février 1934.
Et nous parlons sur France Culture dans l'émission L'Art et la Matière de Godard Picasso, une exposition qui se tient à partir du 2 juillet à l'abbaye de Montmajour dans le cadre des Rencontres de la Photographie. Et je suis pour en parler avec Alain Bergala et Dominique Paigny, et qui échangent avec nous sur cette personne qu'ils ont fréquentée tellement et avec lesquels ils ont beaucoup travaillé, qui est Godard. Et on s'étonne évidemment de cette relation Godard-Picasso, de personnages qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui se sont frottés au fond. En tout cas, Godard s'est frotté à l'œuvre de Picasso.
Je pense que humainement, la rencontre aurait été terrible.
Ça aurait pu très mal se passer, Alain Bergala.
Oui, oui, parce que déjà, Godard, ça se passe mal avec beaucoup de personnes, mais pour lui, Picasso, c'est quand même le vitalisme de Picasso, c'est le contraire de Godard. Godard est un protestant un peu renfermé, etc. Et le côté solaire de Picasso, je pense, lui aurait fait très peur. Je pense qu'il n'aurait même pas accepté de le rencontrer.
Oui, pourtant, Alain, oui, merci. Pourtant, les deux s'enferment, d'une certaine manière, au terme de leur vie, pour se confronter avec eux-mêmes, pour travailler. Ils savent tout. Vraiment un sentiment comme ça. Ils s'enferment avec leur savoir, avec leur culture. L'un au bord du lac Léman, à Rolles, en Suisse. L'autre dans le sud de la France, la Californie, puis Mougins, puis etc. Donc les deux, vraiment, ont une sorte de destin assez commun à l'égard d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est eux qui sont au fond leur véritable sujet dans les deux œuvres, au fond, un peu à leur terme.
Alors, quand vous dites ils s'enferment avec leur savoir, il faut se rendre compte que il y a cet énorme projet qui est quand même le résumé de ce que l'on peut dire du cinéma, qui est l'histoire du cinéma de Godard, qui est un projet à la fois visionnaire, hugolien, une sorte d'ambition absolue, peut-être influencé par Malraux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Bergala, d'ailleurs?
Bon, d'abord, c'est 15 ans de travail.
15 ans de travail, oui.
Parce que moi, il m'avait montré le premier épisode de cette longue série, si on peut dire, et lorsque la série après a été finie, il ne restait plus rien du premier épisode qui avait été filmé, monté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui remet en chantier de façon absolument radicale. C'est-à-dire, il détruit tout pour le recomposer. Et là, il avait beaucoup de choses à la disposition, puisque c'est quand même un film. Et ce qui est intéressant aussi dans les histoires du cinéma, c'est qu'il fait une chose qui est très difficile à faire. C'est il entrelace son histoire à lui, l'histoire, la grande histoire.
Il en fait partie.
Il en fait partie. Et c'est à la fois une auto-analyse, une analyse de l'histoire et une analyse du cinéma. C'est-à-dire que c'est le plus grand projet, je pense, qui ait jamais eu au cinéma, sur le cinéma, enfin, par rapport à l'outil cinéma.
Et Picasso, effectivement, lui aussi, fait cette sorte de synthèse de l'histoire de l'art, d'Altamira à nos jours.
Oui, alors ce qui est très frappant, ça je l'ai un peu découvert dans les 20 dernières années, disons, c'est que, indépendamment du fait qu'il y a un même geste historique, historiographique, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être les premiers. Ils ont donc décidé d'être les derniers. Mais les premiers, ils les revisitent. Et alors, ce qui est très étonnant, il n'y a pas seulement deux gestes comparables, ils revisitent les mêmes. Là, j'étais quand même un peu étonné de voir pour l'exposition de 2006 au Centre Pompidou que Jean-Luc s'intéresse beaucoup, beaucoup aux femmes d'Alger de Delacroix.
C'est un grand point commun entre eux.
Voilà, bien sûr. Et dans Passion, Jean-Luc Godard reconstitue en studio, en vie de manière, avec des vrais chevaux, des acteurs grimés en croisés qui envahissent, qui ouvrent Constantinople, le fameux tableau de Delacroix. Le Manet, qui est vraiment, pour Jean-Luc Godard, très très important en ce qui concerne un certain nombre de tableaux qu'il reproduit aussi, qu'il glisse dans ses scénarios, qu'il confie à des actrices et des acteurs pour qu'ils aient des modèles. Et bon, voilà. Et puis, et surtout, également, dans les années 50, les Ménines que décline à satiété Picasso, Jean-Luc Godard construit une poupée. C'est le personnage de Goya, avec une marionnette, avec un pinceau, qu'il installe dans son exposition en 2006 au Centre Pompidou, dans la première salle. Donc, il y a vraiment là quelque chose. Alors, ce que je crois, c'est que Godard n'y pense pas. Mais j'ai tendance à penser que les deux sont assez exemplaires de ce que j'ai toujours supposé en art, ou en science ou en, j'irais, en destinée humaine, c'est qu'à un certain niveau, à un certain degré fondamentaux de réflexion, de pensée, de travail, d'approfondissement d'une matière, d'une discipline, on trouve les mêmes solutions. On ne s'espionne pas, on ne se cite pas, on ne réfère pas à, on trouve, c'est une dimension anthropologique qui peut l'expliquer, ça, hein, mais on trouve les mêmes solutions, on retombe sur les mêmes solutions iconographiques, autrement dit.
Alain Bergala, cette familiarité avec le monde de la peinture que Jean-Luc Godard manifeste dans son travail, c'est aussi un désir peut-être de son adolescence d'être artiste. Il voulait être vraiment peintre, ou je me trompe?
Il voulait surtout être écrivain au départ, puisqu'il était dans une famille extrêmement cultivée. Il lisait Gide à 8 ans, donc il était très très cultivé en littérature, mais il s'est rendu compte très vite que finalement, son problème, et c'est avec ça qu'il va faire son cinéma, c'est qu'il est incapable d'aligner des phrases dans la continuité.
Oui, il y a un goût de l'interruption, en fait.
Oui, l'idée de la syntaxe lui est totalement étrangère, y compris quand il écrivait au cahier du cinéma, les autres avaient la belle syntaxe romérienne, et lui, il faisait des petits collages déjà de bouts de phrases. C'est-à-dire, Godard est quelqu'un qui a un esprit parataxique, et il a découvert ça au moment de vivre sa vie. D'un seul coup, il dit, ouf, je suis soulagé, je peux faire du cinéma, parce que je ne suis plus obligé.
Là, on est en quelle année, à peu
62.
Près 62. Oui. C'est vrai qu'entre 59 et 68, le nombre de films que fait Godard, c'est incroyable. C'est que des longs-métrages, c'est quoi, une quinzaine.
Une quinzaine de films en 9 ans.
Oui, oui,
c'est considérable.
Mais de ce point de vue-là, là encore, je dirais, c'est cette notoriété précoce qui va les protéger. Oui. Je me souviens, Brassailles avait demandé à Picasso, mais est-ce que vous croyez pas que vous avez pu être protégé comme ça à la mesure même de votre succès très tôt, arrivé très tôt? Et en effet, Picasso lui avait répondu, et c'est vrai, tout ça m'a protégé tout au long de mon œuvre. À 29 ans, Jean-Luc Godard, fait à bout de souffle, 29 ans. C'est un film qui aujourd'hui est regardé comme un classique absolu, comme le 23 ans de Citizen Kane de Wells. C'est très impressionnant aujourd'hui comme film d'école majeur qui met cul par-dessus tête la totalité de tout ce qui s'est constitué pendant 100 ans de cinéma. Hein, pour dire vite 100 ans de cinéma, puisque on est dans 59, sinon c'est fait, ça fait 60 ans de cinéma. Mais enfin, 60 ans de cinéma qui valent bien les 400 ans qui vont de la Renaissance à l'académisme.
Absolument, absolument.
Bon, et là, il y a vraiment là quelque chose qui, d'emblée, Jean-Luc Godard, toute la période des années 60, ça marche plutôt pas mal pour lui. Hein, il y a des producteurs derrière, il y a du public, et ça va le protéger ultérieurement.
Oui, parce que le public de À bout de souffle ou de Pierrot le Fou, c'est 1,5 million de personnes.
Ah,
c'est considérable.
C'est beaucoup de monde.
Après, il va faire
après,
des...
Après, ça va être beaucoup plus
ça
réduit.
Ça va être 35 000 parfois.
Oui, même Le Mépris fera beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Ah oui.
Malgré la présence de Bardot. Oui. Et c'est... Mais il le dit. Godard dit, finalement, j'ai vécu 50 ans sur mon succès initial. Oui. À peu près.
Mais alors, j'aimerais bien que l'on rentre dans une autre question qui est celle, peut-être, qui est à l'origine de l'exposition, évidemment, qui est la question du montage et du collage. On va y revenir. Mais peut-être que, si vous le permettez, je fais venir un autre témoin que vous citez vous-même dans le texte que vous avez choisi d'écrire pour votre exposition, qui est Guy Scarpetta, qui a eu une intuition voisine de la vôtre. Écoutons-le.
S'il est possible de trouver des résonances de l'art de Picasso chez un certain nombre d'artistes postérieurs à lui, j'imagine qu'il est nécessaire de sortir du champ strictement limité de la peinture, qu'il faut mettre Picasso en phase, par exemple, avec des cinéastes. C'est là, me semble-t-il, dans l'art de l'image en mouvement, du découpage et du montage tournant, que certaines caractéristiques proprement picassiennes peuvent trouver un écho, sinon un équivalent. Ainsi, chez Eisenstein, l'art du choc des plans hétérogènes, de l'enchevêtrement de l'organique et du mécanique. Chez Wells, surtout, la variation ivre et contrôlée des points de vue, l'art de la totalité impossible, la déformation systématique et méta-expressive due à l'emploi de la focale courte. Et chez Godard, enfin, la tornade des corps, le jeu des intensités dynamiques, les collages, le télescopage des codes, et même, dans un film comme Passion, la conception du cinéma comme peinture au second degré. Guy Scarpetta, 24 images par seconde, 1989.
Écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Alain Bergala et Dominique Paigny pour parler des relations entre Godard et Picasso, entre Picasso et Godard. Alain Bergala, vous êtes d'accord sur cette idée que Scarpetta évoquait en 89, la conception du cinéma comme peinture au second degré concernant Godard?
Oui, par rapport à l'histoire du montage,
oui.
La grande force de Godard, normalement, au cinéma on choisit, soit on est un cinéaste du montage, soit on est un cinéaste de la révélation du réel, des plans qui durent, etc. D'où venait Godard? Le cahier du cinéma était du côté de Bazin, c'est-à-dire le cinéma n'a pas à faire d'acrobatie et n'a pas à faire de montage. Les choses sont là et elles se révèlent. Et Godard, dès l'époque où il est au cahier, écrit un texte, éloge du montage. C'était tout à fait contraire à l'état d'esprit.
Là, on est en quelle année à peu près?
On est dans les années 50.
Son, Godard son est... beau souci. Comme
voilà, montage beau souci. Souci. Ah, et oui. En fait, la grande force de Godard, et je pense qu'il n'y a que lui qui a fait ça, c'est qu'il fait à la fois les deux cinémas les plus contradictoires qui soient, le cinéma de la révélation, capter les choses, capter le réel, sur les visages, sur Anna Karina, etc. Et en même temps, tout trituré par le montage. Donc il essaye de tenir les deux bouts réputé absolument inconciliable de faire du cinéma.
Mais ce qui le rapproche aussi de Picasso, entre les limites de l'abstraction, enfin le moment, enfin dans les deux sens, limites de l'abstraction, le moment où ça refigure, ou le moment où ça cesse de figurer, et puis la déformation, le travail de la construction, le dos tourné à la réalité. Il y a cette même tension, ce même tourment chez Picasso. Hein. Je le crois. Ce que je pense aussi, c'est que Scarpetta, c'est un beau choix, parce que je l'ai retrouvé ce texte aussi, en effet, dans le catalogue. C'était un texte qui avait un peu du pif, un peu de la, mais sentait bien les choses.
Oui.
Mais évidemment, je ne retire rien à mon ami Scarpetta, mais le grand, celui qui sentit très tôt, très précocement, essentiellement.
Vous allez parler d'Aragon, je parie.
Ben évidemment.
Ben oui.
Évidemment.
Le montage. Le collage.
Bien, voilà. Et montage, mais même qu'il a. Aragon a même abandonné le mot en disant, mais il ne s'agit pas de montage chez Godard, il s'agit de collage, littéralement. Il a vraiment opposé lui-même le mot collage au mot montage, considérant que Godard.
Mais c'est extraordinaire que la vision d'Aragon, avec cette différence de génération, cette distance à tout point de vue.
Oui, mais je vais un peu méchant pour Aragon, et Dieu sait si j'ai pas envie de le l'être. Enfin si, on peut l'être à juste titre pour d'autres raisons, mais Aragon avait quand même, on le sait, était quand même d'un narcissisme fou et savait très tôt repérer là où on parlait de lui, là où il était aimé. Il avait vraiment, dès le tout premier court-métrage de Jean-Luc, Histoire d'eau, scénario de Truffaut, Brialy raconte dans le film qu'il avait été fasciné. Enfin, en tant que personnage, il raconte, voilà, je suis étudiant, je suis à la Sorbonne, je vois arriver à Aragon, etc., qui prétend parler de Plutarque. Et tout à coup, il nous parle de... Alors, je ne sais plus de quoi. C'est pas Plutarque, c'est je ne sais plus quel autre artiste, de Velázquez, même peut-être, je crois bien. Et il dit, ah, oh, mais c'était formidable, mais alors qu'il ait parlé d'autre chose, un étudiant s'est agressé à Aragon, et Aragon dit mais écoutez bien, en vous parlant de Velázquez, je vous parle de Plutarque. Donc dans ce premier court-métrage, justement, Godard disait son plaisir, sa jubilation, à laisser supposer qu'il parlait d'un sujet. Il y avait donc en effet un méta-sujet toujours dans la proposition.
Mais alors Alain Bergala, quand on entend Aragon, vous allez en témoigner, vous allez le raconter, Aragon qui s'engage pour Godard comme si c'était un génie. Enfin, il le traite de génie.
Il le compare à Delacroix.
Voilà.
Y compris sur un point majeur de l'œuvre, mais ça, c'est vraiment le nez, l'intuition inouïe, à cause du rouge, de l'utilisation du rouge comme couleur.
Anna Bergala.
Non, c'est clair que c'est extraordinaire. L'intuition et la perception, y compris en avance, de ce que sera le cinéma de Godard. C'est-à-dire, il attrape tout d'un coup. Quand il voit Pierrot, et il trouve les mots. et il trouve les idées, c'est-à-dire c'est quand même un cas de critique incomparable, je pense.
Mais est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a des citations d'Aragon dans des films de Godard ?
Oui, bien sûr, souvent. Godard était un grand lecteur d'Aragon.
Oui, dans Bande à part, je crois que c'est J'attends. C'est Anna Karina qui, dans le métro de Bande à part, récite le poème d'Aragon. Et souvent, Aragon va à un amour démesuré de lui-même, à la mesure du fait qu'il repère, par exemple, dans Les Carabiniers, que la citation de Maïakovski, c'est la traduction d'Elsa Triolet. Il le repère. Il faut dire que à l'époque des Carabiniers, en 63, il n'y avait pas beaucoup de Maïakovski traduit autre que par Elsa Triolet. Mais enfin, quand même, bon. Et bien après, le Bande à part, il le compare en 64 au Paysan de Paris. Il trouve que dans Bande à part, il y a déjà tout le Paysan de Paris.
Alors, ce qui m'intéresse là-dessus, peut-être qu'Alain Barguela, vous aurez une opinion là-dessus, c'est que ce qui intéresse Aragon chez Godard, c'est que le montage et la façon dont il est heurté, dont il est scandé, que je ne sais pas comment dire, permet de parvenir à un état mental plutôt qu'à un état narratif. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ?
En tout cas, ce qui est très étrange, c'est que ça vient d'Aragon. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des écrivains qui travaillaient la question du montage, de la répétition. Or, Aragon est quand même un écrivain, au contraire, du déploiement, de la linéarité. C'est-à-dire, il repère chez Godard ce que lui-même n'est pas une tentation pour lui, alors que pendant ce temps, d'autres écrivains ont cette tentation. C'est quand même très étrange.
Alors, écoutons, pardon Dominique Pagny, écoutons Aragon, puis on va rebondir dessus. Écoutons-le.
Ce procédé, parfaitement conscient, que Godard lui-même appelle toujours collage, a le don d'irriter les critiques et les bavards qui lui donnent le nom de manie de la citation. Ce n'est pas là une facétie fortuite, mais l'expression d'un système. Et d'un système qui suppose l'emprunt d'une pensée toute faite, introduite d'un autre art que le cinéma lui-même, et qui semble à nos gens sacrilège ou tout au moins de mauvais goût. Dans Le voir et le savoir, essai sur Nicolas Poussin, Pierre Schneider écrit « Jamais peintre n'a désiré à ce point que son œuvre parle aux yeux. Il multiplie les personnages allégoriques qui, comme le remarquait avec agacement l'Homérie de Brienne, sont des écriteaux que le peintre met dans son tableau afin d'en rendre le sens plus clair. Il semble que cet art de disposer des écriteaux, ce soit bien celui où Jean-Luc Godard est, comme Poussin, passé maître. Et ces dieux fleuves, irrésistiblement, dont parle ici Pierre Schneider, me font songer aux statues olympiennes du mépris. » Étrange parenté qui lie au créateur d'aujourd'hui un peintre comme Nicolas Poussin, précisément pour ce désir de lui qu'il partage, que son œuvre parle aux yeux. La différence n'est que le vocabulaire. Collage, écriteau, citation, à vous de choisir. Louis Aragon, Les Collages, 1965.
Puisque nous parlons des relations Godard-Picasso, Dominique Pagny, et que nous venons d'entendre ce texte d'Aragon, texte absolument formidable, c'est quand même cette question du collage qui a été peut-être à l'origine de votre intuition sur le rapport entre Godard et Picasso. Est-ce que ça veut dire que, en dehors du montage et de la technique, cette sorte de cut-up parfois qu'on a presque chez Godard, je crois que le mot est excessif, vous me corrigerez, eh bien, est-ce que Godard prépare, par exemple, un scrapbook prépare. Est-ce qu'il travaille avec des plans? Est-ce qu'il colle? Est-ce qu'il instrumentalise sa préparation? Est-ce qu'il découpe du papier comme le faisait Picasso? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la matérialité de la préparation mentale du plan?
Cher Jean, c'est ce que nous allons montrer précisément, même matériellement, dans l'exposition.
Vous voulez dire que vous allez montrer des collages,
oui,
de Godard?
Oui, toute sa vie. Jean-Luc,
les collages qu'il considère comme œuvre ou comme méthode?
Je pense que c'est plus une préparation, un laboratoire mental, un laboratoire plastique. Je crois qu'il y a vraiment un parti pris de parler aux yeux d'emblée, comme reprendre comme la formule d'Aragon, c'est vraiment l'homme Godard qui vraiment se pose cette question absolue de comment détourner, comment ne pas sortir de l'empoissement d'une signification idéologique univoque d'un récit. C'est vraiment, c'était tout le problème de Godard. Et là, de ce point de vue-là, le choc des matériaux, les éclairs des coïncidences, sont des choses qui sont préparées d'emblée par Godard pour le montage à venir de son film, à l'échelle de cahiers, de grands cahiers que nous avons retrouvés, de cahiers qui ont été retrouvés par des amateurs, un peu par hasard, par des chineurs, chez des brocanteurs. Oui, il y a trois cahiers magnifiques, nous n'en montrons que deux démontés, des cahiers qui étaient abandonnés dans des bobines de films intitulés Ziegavertov.
Ziegavertov, c'est voilà, le nom de code voilà, d'un groupe anonyme.
C'était son groupe, ils étaient deux, Jean-Pierre Gorin et lui, en 69, 70, 71. Et le chineur en question, pensant trouver des films de Ziga, des chutes de films de Ziegavertov, a acheté le tout, 50 euros le tout, il y a quelques années. Et en ouvrant une des boîtes, bien sûr, c'était des films de Jean-Luc Godard et de Gorin, Pravda, British Sands, Gai Savoir, etc. Tous ces films que Jean-Luc faisait avec Gorin à cette époque, dans ce moment de ce groupe nommé Ziegavertov, en référence et en admiration pour le cinéaste soviétique. Il trouve trois cahiers.
C'est l'invention du cinéma sans scénario.
Voilà,
c'est
trois cahiers de préparation. Ouais, absolument. Trois cahiers de préparation des films. Et alors là, c'est très troublant, d'ailleurs, parce qu'on est en 68, on est presque une dizaine d'années plus tard. Les fameux, qu'on ne connaissait pas à l'époque, hein, les fameuses revues Life, Vogue et bien d'autres revues féminines aussi, détournées, retravaillées, décollées, déchirées de Pablo Picasso, qui, trouve là, encore une fois, une sorte de continuité.
Ils n'avaient pas les mêmes revues, mais simultanément. Voilà,
absolument. Et donc là, ça nous les montrons. Nous en montrons. C'est très beau. C'est très dynamique. C'est vraiment plein d'humour, comme Picasso d'ailleurs. Parce que je dirais que d'une certaine manière, je m'arrête sur le mot humour qui me vient là. En effet, c'est vrai que Godard, Alain disait qu'il était vraiment plus protestant que l'espagnol. mais les deux, je crois, trouvent de la joie dans leur isolement. Mais une joie qui ne s'incarne pas de la même manière. Je crois que les deux ont beaucoup de plaisir à peindre et filmer de la manière dont les deux font dans cet enfermement.
Les deux ont le plaisir du coq à l'âne.
Oui.
Parce que Picasso dit, j'adore le coq à l'âne. Quand je fais un tableau, il dit finalement, c'est un coq à l'âne. Une idée m'en amène une qui n'a rien à voir. Et Godard est un fou du coq à l'âne. C'est-à-dire Godard associe les mots, les images, selon des liaisons qui relèvent purement du coq à l'âne, enfin, du mot d'esprit, etc. Donc là-dessus, sur l'humour, il y a quelque chose de...
Mais vous qui est témoin de son travail, si je puis dire, et qui avait été son éditeur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé en regardant l'édition faite chez Gallimard, par exemple, de l'histoire du cinéma. Les trois tomes extraordinaires, d'ailleurs, qui ne sont pas exactement semblables, qui ne sont pas la mise en livre de ce qu'est le film, hein, bien entendu, ce qu'est cette anthologie hallucinante. Il y a une manipulation de la photocopieuse. On reprend trois fois la même image qu'on use pour retrouver une autre matière. Il y a une attention à la matière de l'image, en fait.
Hein. Tout à fait. Et puis, ce que vous dites, c'est-à-dire le goût de la duplication pour abîmer la matière. Enfin, en tout cas, pas la dégrader, mais l'horreur de ce que serait une matière lisse, propre, et notamment sur les films. C'est-à-dire, Godard, aujourd'hui, quand il fait des films, il met beaucoup d'extraits de films anciens. Souvent, ces films existent en DVD. Mais lui, il va chercher des vieilles cassettes VHS et il repart d'une image un peu dégradée du VHS parce qu'il trouve que par rapport à son travail à lui, évidemment, ça ressemble plus au collage, enfin au montage de ce qu'il veut faire.
La bande-annonce de son dernier film, c'est ça.
Ce que vous dites est d'autant plus fort que Picasso, c'est ce que nous allons montrer d'ailleurs, a utilisé avec la complicité d'un photographe, d'un jeune photographe qui habitait à Mougins aussi, André Villers, a utilisé emprunté ce parti pris de prendre du papier photographique déjà usé, qui a pris la lumière, découper dedans, refaire refotographier par Claude Villers, redécouper dedans, jusqu'à quasi effacement, détournement de l'image, par une sorte de feuilletage, par une sorte d'effacement progressif qui engendre l'effacement en question, engendre une autre image. Jean-Luc Godard a fait ça sur un certain nombre de montages préparant le film Passion. Là, nous ne l'avons pas trouvé chez un collectionneur qui a chiné. C'est une actrice qui a travaillé sur 3-4 films avec Jean-Luc, 3 films. Jean-Luc Godard lui a donné un très beau scénario préparé avec des collages d'images plutôt qu'une continuité dialoguée. Et cette actrice a gardé précieusement ce véritable chef-d'œuvre, empruntant à des photographies de l'histoire de l'art, confrontant des visages à venir de son actrice à des images de Rodin ou de grands maîtres. Donc pour donner à entendre quelque chose qui a à voir avec une énergie plastique plutôt que une continuité dramaturgique. Et là, nous montrons ce travail de collage.
J'ai une expérience avec Godard par rapport à ça. C'est que avec Godard, la tradition était que chaque fois qu'il sortait un film, au Cahier, on faisait un grand entretien avec lui. Et un jour, il me dit non, j'en ai assez. On fait ça chaque fois. Ce coup-ci, on passe. On ne fait pas d'entretien. C'était pour Soigne ta droite. Et je ne décourage pas. Et je lui envoie des feuilles blanches où j'avais écrit une question en haut, simplement. Je lui envoie par la poste et je reçois des collages. C'est-à-dire, au lieu de faire un entretien où il aurait répondu par des paroles à nos paroles, il choisit une forme graphique et il a dû y passer une semaine.
On les montre.
Ah voilà, oui, écoute.
Ah, vous les montrez. Est-ce que ça a à voir avec la lettre à Serge Danet et Serge Toubiana parue dans les Cahiers du cinéma ? Parce qu'il y a une lettre, je vais vous la faire écouter, qui a beaucoup de relations avec ce que vous venez de dire. D'accord. Écoutons-la.
Même l'entretien que nous avons essayé de faire pour sauver les meubles sonne plus ou moins faux. Et ça fuit de tous les côtés. Tellement il est visible que plus personne ici-bas n'a le moindre besoin d'une image pour dire quelque chose. Comme votre numéro spécial photo en faisait la preuve, les gens n'ont besoin de photos que pour se servir de caution et d'alibi à leur page d'écriture. Voici quelques documents au hasard des tiroirs qui auraient pu faire partie des événements que l'on aurait choisi de passer en revue, à condition de préférer y voir clair plutôt que d'en savoir long. Jean-Luc Godard. Lettre à Serge Danet et Serge Toubiana, mai 1979.
Voilà les hasards des tiroirs dont vient de parler Godard, oui. Qui correspond un petit peu à l'histoire que vous racontiez.
Tout à fait.
Hein, c'est la même chose. Et alors, c'est drôle, Dominique Pagny, vous avez trouvé aussi, je vois, une écriture ronde qui est celle de Godard, bien reconnaissable.
Oui, c'est un petit mot qu'il envoie à l'actrice Myriam Roussel. Il lui dit, là, on montre d'ailleurs dans l'exposition, ça, je sais faire. Coller des photos, trouver de l'argent pour acheter l'appareil de photo, les ciseaux, le cahier, louer la table pour mettre le cahier dessus, la maison pour mettre autour de la table et acheter le cigare pour tirer dessus pendant que je fais tout ça, ne pas en avoir marre, ne pas se marrer, d'une image de marée basse, démarrer dans l'affection et les bruits neufs, disait plus simplement Rimbaud. Il y a vraiment tout.
Belle lettre, hein, il y a tout le vocabulaire. Oui. Cette présence des ciseaux, on voit, je me souviens de ce plan incroyable comme ça où il y a des ciseaux qui atteignent presque le spectateur. C'est un emblème du montage pour vous.
Enfin, dans la tête de Godard, c'est Hitchcock.
C'est les ciseaux. Oui, parce que ça va devenir un crime, évidemment.
Voilà, c'est les ciseaux agressifs du film en relief, le seul film en relief qui a fait Hitchcock. Et puis pour lui, c'est surtout le montage. Dans un film, il y a une monteuse aveugle. Pour lui, lorsqu'il veut parler de montage, il montre des ciseaux, à peu près. Mais l'histoire du plan de Pierrot le Fou, c'est une histoire très étonnante. C'est que Coutard avait choisi...
Godard, l'opérateur.
Raoul Coutard, le chef opérateur avec qui Godard a fait tous ses films pendant 10 ans, dit à Godard, j'ai un objectif, là d'habitude on ne peut pas le mettre, mais là on peut le mettre, c'est un fisheye. Et Godard, horreur, fisheye.
Grand faire, angle.
Oui, très grand angle. Je ne vais pas faire un plan qui déforme l'espace et tout. Et donc, pour faire plaisir à Coutard, il laisse Coutard filmer au fisheye le plan des ciseaux. Et il dit à la script, parce que j'ai le rapport de script, il dit, ce plan, évidemment, ne sera pas dans le film. Peut-être dans la bande-annonce. Et après, ce plan devient essentiel dans le film. C'est-à-dire sur aussi la reconnaissance que finalement, ce que lui avait proposé Coutard n'était pas si nul et que lui, Godard, pouvait faire un jour un plan au fisheye qui était le contraire de sa morale, disons, de cinéaste.
Oui, en fait, il a récupéré cela, il l'a collé dans son film. En fait, c'est un collage. Voilà. Cette question du collage donc, est fondamentale dans votre exposition.
Nous en montrons beaucoup, donc réalisé par... Par Godard.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition ? Donc, il y a quelques collages Godard, quelques...
Pas quelques, beaucoup.
Beaucoup.
Beaucoup, il y en a quand même une bonne... Enfin, j'en ai choisi quand même une bonne cinquantaine, au moins.
Ah oui, et Picasso ?
Et puis Picasso aussi, un certain nombre de peintures de Picasso qui font très explicitement référence à la méthode du collage.
C'est-à-dire donc c'est un discours sur la méthode,
oui,
votre exposition.
Oui, parce que, en fait, j'ai plutôt que de montrer des collages de Picasso en référence à des collages de Godard, j'ai montré en quoi l'expérience du collage était le laboratoire de la peinture de Picasso. J'ai donné les résultats, si vous voulez, plutôt que des collages de la période cubiste qui n'avaient pas de rapport, qui étaient trop éloignés, je dirais. Bon, mais cela dit, l'exposition raconte cette histoire, donc, de deux hommes qui n'ont rien à voir... qui sont absolument étrangers à eux-mêmes, et comment, d'une certaine manière, le travail de l'histoire de l'art, le travail également des regardeurs, hein, des œuvres d'art, participe, de mon point de vue, et de votre point de vue aussi, je crois bien, Jean, en faisant même cette émission ou ailleurs, participe effectivement de la recherche de coïncidences, si je puis dire, fatales, hein, pardonnez-moi cette formule qui est un peu un oxymore, mais d'entrer en art sans la capacité de comparer, de rapprocher, de distinguer aussi, pour bien vérifier que ça n'a rien à voir. C'est aussi une manière aussi, une bonne raison aussi de rapprocher les choses. Et donc là, c'est incontestable que les deux hommes, bon, j'ai un enjeu, bien sûr, c'est de montrer en quoi le cinéma est un art absolument à part entière. Bien sûr, c'est un grand combat de toute l'histoire du cinéma.
C'est un combat que vous avez remporté, je pense.
Voilà. Non, mais c'est toujours bien de le rappeler. Mais que on a, avec la personnalité de Godard, quelqu'un qui, une personne, un héros. D'ailleurs, les deux, de ce point de vue-là, j'y reviens. Les deux se sont arrangés pour, indépendamment d'accomplir une création précoce, magistral, ils se sont attachés aussi à constituer leur personnage mythique, leur héroïsme d'auteur aussi. Ils ont inventé une image. Combien de fois ai-je entendu dire c'est du Picasso lorsque c'est mal peint, enfin, selon eux, ou c'est du Godard lorsque c'est mal filmé.
Lorsqu'on comprend rien.
Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est un effet extraordinaire quand Michel Cournot, le critique du Nouvel Observateur dans les années 60, qui d'ailleurs défendit ultérieurement beaucoup Jean-Luc Godard, mais pour les carabiniers, Cournot disait « film mal fichu, mal éclairé, mal tout ». Hein, mais tout le monde, c'est tous les jours. J'avais regardé là, avant de venir à l'émission. J'envoyais dans justement les éditions des écrits de Godard que Alain avait rassemblé. Dans les journaux, c'était marqué filmé à la dia, monté vaille que vaille. Mais on disait également la même chose de Godard.
Les dernières critiques du, on disait les mêmes choses de Godard. Et j'allais dire que les dernières critiques du Figaro sur le film de Godard étaient du même ordre. Quelle chance!
C'est la critique qui a dû préférer d'ailleurs Jean-Luc Godard. Mais alors, avec le dernier film de Jean-Luc Godard...
C'est-à-dire qu'il s'est fait éreinter, voilà, mais comme en 68.
À Cannes, cette année, c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est le film, le livre d'images, est comparable à la grande exposition de Pablo Picasso. Mais là, je souhaite encore bien des années à vivre pour Jean-Luc. La dernière exposition de Picasso en 73 à Avignon. Ouais. Tout à coup... Il reclive, il redivise, c'est un chef-d'œuvre absolu, livre d'images, et on a de nouveau, comme en 59, l'extase, dont j'ai fait partie, de tous ceux qui ont été absolument sidérés par le film, et puis la haine, vraiment la haine de Michel Simons, d'ailleurs, dans cette chaîne, d'ailleurs, pas content contre le film de Godard.
C'est bien, on est tous libres, on peut y aller.
Et puis, Eric, et puis dans le Figaro, c'était très, très, très jubilant de voir cette gêne.
C'est héroïque aujourd'hui.
C'est
héroïque de dire Godard est nul et le
film
est nul.
Oui, absolument.
Alain Bergala, dites-moi, ce film qui vient d'être présenté à Cannes succède à un autre film sur le langage, sur Après le langage. Quel est son titre d'ailleurs exact?
Adieu au langage.
Oui. Qui est un film extraordinaire dont l'un des personnages principaux est le chien, avec lequel il y a non pas une communication, mais une communion, précise langage, précise Godard dans certains de ses films. Et on a l'impression que cette importance de la peinture est aussi, dans l'œuvre en général de Godard, est aussi un accueil fait au silence.
Oui, et puis dans Adieu au langage, Godard est peintre.
En plus,
devient peintre, oui. C'est-à-dire qu'il utilise les choses qu'avant on n'aurait jamais pensé qu'il utiliserait, c'est-à-dire les trucages vidéo, les couleurs saturées, c'est-à-dire il se sert
de la palette graphique.
Oui, il s'en sert comme un peintre et il a sa propre esthétique, c'est-à-dire ce qu'il en fait ne ressemble en rien.
Dans le dernier film, il a sa propre main qui peint
à la main. Voilà, donc c'est clair que la peinture est pour Godard une forme d'art. Que le cinéma devrait viser. Enfin, on lui pense qu'il peut peut-être atteindre avec le cinéma à ce qu'a fait de mieux la peinture. C'est clair que c'est...
Voilà. Alain, permets-moi de te couper la parole. Paini. En 66, à Alain Jouffroy, dans la revue L'Œil, Jean-Luc Godard dit, je peux le dire d'un point de vue pratique, quand je parle à un producteur, je me suis toujours défini comme un peintre pour lui expliquer que je ne pouvais pas travailler forcément tous les jours, qu'il fallait qu'il me donne une distance à parcourir sur laquelle j'étais d'accord, mais surtout qu'il ne me mette pas des jalons. C'est l'exemple que je pouvais donner. Enfin, c'était le peintre que auquel je m'identifiais toujours le plus.
Ah oui. Vous savez, mon rêve, puisqu'on est entre amis, on peut se raconter nos rêves, mon rêve aurait été, et peut-être que ça le sera, que Godard puisse faire le film sur la grotte Chauvet. Ça, je trouve que de ne pas l'avoir invité pour une occasion pareille est très dommage, parce que c'est un sujet pour lui. Et la nuit, parce que la nuit est tout le temps là, chez Godard. Mmh. Et cette naissance des images, c'est...
Alors j'attire votre attention, cher Jean, en termes de collage, on montre aussi, non seulement des collages originaux qu'on a retrouvés, qui nous ont été donnés, etc., mais aussi des collages dont on ne soupçonne pas, ou qu'on a oublié, qu'ils en étaient, des collages. Le numéro 300 des Cahiers du cinéma, numéro anniversaire, en mai 1979, a été conçu intégralement par collage, et par un décollage. Et donc, nous l'avons déployé sur près de 6 mètres de long. Nous en avons fait un fac-similé complet. Et l'étalement, le déploiement du numéro, là, c'est très troublant, donne à voir une pensée du mouvement, une pensée en mouvement, depuis précisément ce travail de laboratoire, de cuisine presque, mais archaïque presque. Et là, chez ce cinéaste le plus moderne qui soit, enfin le parangon de la modernité, on a vraiment en effet quelqu'un qui est passé des boutades. C'est les origines de la peinture qui sont à l'origine de l'énergie de filmer de Godard.
Alain Bergala, vous préparez un livre sur Godard et la peinture, ce serait bien, non ?
Non, je prépare un livre sur Pierrot le Fou. Ouais. Mais forcément, je parlerai de peinture.
Forcément. Merci infiniment, Dominique Paini. Merci, Alain Bergala, d'avoir bien voulu nous parler avec passion et affection de l'œuvre de Jean-Luc Godard et de ses relations avec Picasso.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Alain Bergala et Dominique Paini pour nous parler de l'exposition Godard, Picasso, Collage qui se tient à partir du 2 juillet jusqu'au 23 septembre à l'abbaye de Montmajour dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Éric Herson-Macarel, attaché de production, Sylvia Favre. Une émission préparée et très bien préparée par Sixtine de Thé. Merci Sixtine. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Franck Lilin. Nous ne nous retrouverons pas la semaine prochaine. Nous allons passer ensemble ou pas ensemble des vacances et nous nous retrouverons avec joie au mois de septembre. D'ici là, à 15h30, vous retrouverez Joël Gayot et sa saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture et bonnes vacances à tous.